Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour une émission un petit peu particulière. Conflit va bientôt fêter ses 10 ans en avril 2024. Et au cours de ces 10 années d'existence, on a tenté évidemment de vous faire comprendre l'actualité géopolitique, de vous faire découvrir des auteurs et puis aussi de faire comprendre, connaître mieux certains domaines, certains secteurs. Il y en a un domaine qui est parfois méconnu, voire inconnu du grand public, qui est celui du monde de l'armée, du monde militaire. Alors évidemment, on parle beaucoup de guerre, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il est vrai que le monde militaire, du moins pour ceux qui ne sont pas militaires, pour ceux qui sont en dehors de ce monde-là, est parfois méconnu, parfois curieux. Il apparaît comme quelque chose de très cohérent, mais peut-être un petit peu secret, ou en tout cas qui conserve des aspects qu'on peut avoir du mal à appréhender. Alors on va essayer au cours de cette émission qui ouvre une série en partenariat avec l'école de guerre Terre, dont je remercie vivement pour sa participation, au cours de cette série donc de vous faire mieux connaître l'armée de Terre, son fonctionnement, comment elle est organisée, quel est son rôle également. Et cette première émission est consacrée à l'école de guerre Terre à proprement parler. Donc on va expliquer ce qu'est l'école de guerre Terre, à quoi elle sert, comment elle forme les officiers, puisque c'est une de ses fonctions. Alors évidemment, pour ceux qui sont militaires, vous n'apprendrez pas grand-chose, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément le monde militaire, eh bien on va essayer de faire une émission qui soit le plus pédagogique possible pour que vous puissiez mieux appréhender ce monde militaire qui est évidemment très important pour la survie de la nation et pour la survie de la France. Alors, mes deux invités aujourd'hui, le colonel Renaud Rondet, bonjour.
Bonjour.
Et le chef d'escadron Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, colonel Renaud Rondet, vous êtes le directeur de l'école de guerre Terre, qui après carrière déjà bien remplie dans différents régiments et différentes missions. Alors, mon colonel, je vais commencer par vous poser une première question sur ce qu'est cette école de guerre Terre. En fait, à quoi elle sert? Pourquoi elle a été fondée et quels sont ses objectifs?
Alors, ça peut être paradoxal de parler d'école de guerre, d'associer les deux termes. Quand on aborde le sujet de la guerre, on imagine le fracas des combats, le champ de bataille, l'imprévu, le danger. Et quand on aborde le terme d'école, on pense plutôt au calme, à la méthode, au raisonnement et à la réflexion. Et donc, c'est ce paradoxe qui est intéressant. Et sous un angle historique, en fait, pendant très longtemps, la guerre ne s'est apprise que par la guerre. On avait des armées qui étaient expérimentées, mais qui avaient une formation et un entraînement finalement très limité. Je voudrais vous prendre l'exemple de, en 1867, Napoléon III rassemble au camp de Châlons tout ce que l'armée française de l'époque compte d'officiers généraux pour faire des études stratégiques. Mais faire des études stratégiques nécessite d'avoir préparé un thème, d'avoir réfléchi au sujet. Et devant l'impréparation totale des armées et des états-majors à ce moment-là, Napoléon III décide juste de se contenter de lire l'histoire du consulat et de l'Empire rédigée par M. Thiers. Donc cette impréparation finalement explique en grande partie la défaite de 1870 pour l'armée française. Où les Français ont fait la guerre finalement sans la comprendre, alors que les Prussiens, qui n'avaient pas du tout été engagés au XIXe siècle, n'ont pas fait la guerre, mais en fait l'ont comprise. Et c'est cette prise de conscience en 1870 qui pousse la France à créer l'ancêtre de l'école de guerre Terre, qui était l'école supérieure de guerre, avec comme objectif, par une approche théorique. C'est le maréchal Foch qui a été instructeur à l'école de guerre Terre qui a développé toute une réflexion sur les principes de la guerre. Donc, outre cette approche théorique, de la compléter par des études de cas. Et l'objectif était vraiment d'avoir une double approche, une approche conceptuelle, mais aussi une approche pratique. Parce qu'un officier, c'est d'abord un praticien du combat et il doit prendre des décisions concrètes. Donc l'objectif, c'était vraiment, à partir de ces principes, d'apprendre à les appliquer de manière contingente en fonction de la situation sur le terrain. Voilà un peu l'historique de l'école de Guerre-Terre. Quels sont, peut-être qu'avant d'aborder les objectifs et la manière dont on forme les officiers à l'école de Guerre-Terre, il est important de revenir un peu sur le contexte d'aujourd'hui, qui se caractérise, il me semble, par une nouvelle ère stratégique finalement dans laquelle on est entré, avec l'invasion de l'Ukraine, qui est une date très emblématique, mais finalement qui est sans doute un processus beaucoup plus long, qui nous a fait basculer dans cette nouvelle ère stratégique. Nous, qu'est-ce qu'on observe d'un point de vue de l'armée de terre, de cette nouvelle ère stratégique? La première chose, c'est le retour finalement des logiques de puissance. Et le retour des logiques de puissance, pour nous, très concrètement, ça veut dire que la guerre est revenue au cœur des relations entre les États et redevenue un outil politique pour parvenir à des objectifs politiques, soit d'un État, soit d'un groupe terroriste. Donc on a un retour de guerre de conquête où l'objectif finalement est vraiment de conquérir un territoire, de contrôler une population. Et donc on est sur des guerres existentielles. Et ces guerres existentielles, elles se déroulent au sol, dans des combats qui engagent des effectifs importants, des effectifs humains importants, et où ces gens, finalement, défendent leur existence propre. On est vraiment... on revient, on assiste à un retour de la nature profonde de la guerre, finalement, qui est ce drame humain où les hommes luttent dans une lutte à mort pour défendre leur existence et la civilisation à laquelle ils appartiennent.
On voit d'ailleurs à la fin des années 1990-91, on parlait des dividendes de la paix, donc fin de la guerre froide. Certains d'ailleurs croyaient à une sorte de paix perpétuelle. Les budgets militaires d'ailleurs avaient été fortement diminués. On voit que depuis quelques années maintenant, ça remonte. Enfin, il y a un retard à récupérer aussi. Bon, si vous avez raison, on a complètement changé d'air. C'est-à-dire qu'on est passé d'une croyance dans une sorte de paix universelle au fait que la guerre est là. D'ailleurs, on le voit aussi dans le nom de l'école, parce qu'on parle de l'école de guerre-terre pour la distinguer de l'école de guerre. Quelle est interarmes, où il n'y a pas que l'armée de terre, il y a aussi la marine, la gendarmerie et toutes les autres composantes de l'armée, qui s'est longtemps appelée collège interarmée de défense. Et je crois qu'il y a 4 ou 5 ans, non, on a changé le nom pour l'appeler école de, re-appeler école de guerre.
Oui, pour l'armée de terre, ça a été le cas également. Hein. C'est-à-dire qu'on avait... à la fin des années 80, on avait renoncé au terme d'école de guerre et on avait appelé. Alors, il y a eu plusieurs appellations. On avait appelé ça cours supérieur d'état-major à un moment donné. À un moment donné, l'armée de terre avait même quasiment supprimé toute formation pour ses officiers avant qu'ils ne rejoignent le collège interarmé de défense. Et c'est le général Bossert en 2018 qui, devant le retour de ces logiques de puissance dont on parlait, a dit il faut réinvestir à nouveau dans la formation des chefs de l'armée de terre et notamment sur les aspects tactiques et les manœuvres des grandes unités qu'on observe aujourd'hui quotidiennement en Ukraine.
Alors, dans la formation d'un officier, à quel moment se positionne l'école de guerre-terre? Le parcours classique, si je puis dire, il y a Saint-Cyr, enfin classe préparatoire Saint-Cyr, début de carrière lieutenant-capitaine. Et puis, c'est pas le milieu de carrière, mais enfin, au bout de 10-15 ans déjà d'exercice, où là, il y a préparation à ce concours, c'est ça?
Alors, il importe de comprendre un petit peu la genèse, et vu de la place des jeunes officiers supérieurs que nous sommes en scolarité, nous ne sommes pas des étudiants, nous sommes bien des officiers supérieurs en scolarité, et cela correspond, comme vous l'avez dit, à un moment charnière dans la carrière. Me concernant, j'ai intégré Saint-Cyr en 2009, j'ai fait Saumur, l'école d'application de la cavalerie, j'ai servi au 3e régiment de hussards de Metz, qui fait partie de la BFA, j'ai été chef de peloton, officier adjoint, j'ai commandé un escadron de près de plus de 120 personnes sur un véhicule blindé léger, avec plusieurs expériences opérationnelles. Et au terme de cette première séquence dans la carrière d'un officier, se pose la question de rejoindre ou non l'école de guerre-terre et donc de préparer ce concours. Nous sommes le plus souvent affectés sur des postes différents. Nous sortons du régiment et en parallèle de cette première affectation hors du régiment, souvent sur des postes un peu exposés, en administration centrale. J'étais moi-même au centre de planification et de conduite des opérations de l'état-major des armées. Donc en parallèle de ces affectations, nous préparons le concours. Et il convient à ce moment-là de se poser les bonnes questions de ce que nous voulons faire du reste de notre carrière, de nos ambitions, de nos projets, et finalement d'aller passer ce concours qui est très exigeant, qui est très difficile. Il faut s'imaginer, c'est quelque chose d'assez exceptionnel hein, dans la fonction publique, d'avoir deux concours dans la carrière, ça c'est une particularité. Et au bout de 15 ans de carrière, de se retrouver en concurrence avec ses petits camarades, qui sont le plus souvent ces très bons amis qu'on connaît depuis longtemps, pour aller conquérir cette place.
D'autant que vous préparez le concours tout en étant travaillant. Enfin, on ne met pas de côté pour préparer le concours. Il y a la vie familiale aussi en plus. Donc,
tout à fait.
Finalement, les conditions sont rudes pour préparer un concours qui est exigeant.
Exactement. J'en parlais ce matin avec mon épouse et en faisant le bilan, effectivement, en 3 ans, nous avons été mutés, avons eu 2 enfants, avons préparé un concours elle aussi. Donc voilà. C'est des moments très, 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 très denses et riches de vie personnelle et des sacrifices tout en devant exercer des fonctions très sérieuses et très exigeantes la journée dans son poste.
Alors, une des particularités de l'armée de terre, c'est que cette formation se fait en 2 ans. Les autres armes vont directement à l'école de guerre interarmes. Vous, dans l'armée de terre, vous avez 2 ans, donc école de guerre terre entre terriens et après l'école de guerre interarmes avec les autres composantes des armées.
Tout à fait, c'est une spécificité, un choix qui était fait. Et là, finalement, nous abordons que faisons-nous à l'école de guerre terre. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est important de comprendre que c'est une scolarité qui se déroule tout d'abord beaucoup en dehors des murs et au service de l'armée de terre. Il y a toute la partie qui est très importante de tactique, de mise en situation tactique, d'apprentissage et toute cette partie-là. Mais il y a toute une partie qui se fait directement au service de l'institution. Et quand j'explique cela à mes amis qui sont civils, j'essaie d'expliquer que ça s'apparente un petit peu à un MBA au service de l'institution. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un modèle d'école classique, c'est quelque chose où on va être une période où on va être amené évidemment à étudier, mais avec beaucoup de travail personnel. Et puis une pédagogie qui est très intéressante, qui va nous permettre d'acquérir des connaissances, de réfléchir à des sujets en commun avec nos camarades, avec nos cadres, avec les intervenants, d'acquérir de l'expérience au moyen d'exercices, de mise en situation, et au final de développer une certaine légitimité sur des sujets très très nombreux, très différents, et le plus souvent de manière opérationnelle, c'est-à-dire directement au profit de l'armée de terre sur des questions. Et qui vont non pas rester entre les murs de l'école, mais bien aller irriguer les états-majors, parce que ça répond à des problèmes, ça répond à des problèmes concrets et à des questions qui sont posées.
Alors, l'école de guerre est basée à l'école militaire. Ceux qui ont la géographie de Paris en tête, on est entre les Invalides et le Champ de Mars. C'est un monument historique, puisque l'école militaire a été créée à l'époque de Louis XV pour être une école militaire, donc pour former justement les cadres militaires. C'est d'ailleurs un des rares bâtiments non religieux de Paris dont la fonction d'origine est encore celle d'aujourd'hui. C'est aussi agréable. Alors, c'est un bâtiment historique, donc parfois les conditions sont un petit peu rudes, mais c'est aussi un lieu qui est très agréable et qui a effectivement une histoire. C'est derrière 250 ans, presque 3 siècles de formation militaire continue depuis le XVIIIe siècle.
Non, et puis l'intérêt du site de l'école militaire, c'est que beaucoup d'organismes de formation de toutes les armées, mais aussi de centres de doctrine y sont implantés. Et ça favorise beaucoup de synergies, en fait, entre la formation, la doctrine, la recherche également, puisque l'IRSEM est installé à l'école militaire. Et donc tout ça crée un écosystème extrêmement favorable pour, d'une part, développer la réflexion stratégique et la réflexion des armées sur le sujet de la guerre en général, de croiser les regards aussi avec des visions d'officiers issus de l'armée de l'air, de la marine, du cyber, de l'espace. Et ça crée un écosystème extrêmement favorable. Et vous avez sans doute suivi que le ministre avait lancé le projet d'Académe qu'il a inauguré, il me semble, le 26 octobre dernier, et qui vise justement à fédérer l'ensemble de ces centres de formation et de réflexion autour de la réflexion stratégique et de la réflexion sur la guerre, en tout cas à Paris, pour apporter une vision française.
Donc c'est l'Académie de défense qui chapeaute en quelque sorte des centres de recherche existants pour coordonner, faire des synergies, puis aussi réfléchir aux nouvelles formes de guerre.
Oui, exactement, c'est ça. Et puis d'avoir peut-être un point d'entrée, une visibilité, garantir la visibilité finalement à tout ce qui se fait à l'école militaire, mais qui perd en visibilité parce que sans doute trop dispersé jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est de fédérer tout ça au sein de cette Académie de défense.
Il y a un autre aspect de la scolarité. Je ne sais pas si c'est pendant l'école de guerre terre ou l'année d'après, où vous pouvez faire éventuellement un master dans des écoles civiles, polytechniques, écoles de commerce, certains au CNAM. Donc là, avec un complément, si je puis dire, de formation non militaire, en plus de votre formation militaire.
Tout à fait. Alors, avant même l'école de guerre terre, il y a une projection de 6 mois, donc voilà, qui vient se rajouter à toutes les... à toutes les étapes pour intégrer. Donc là où c'est une mise en situation, voilà, le plus souvent avec des responsabilités importantes ou différentes. Et effectivement, au terme des 2 ans de scolarité, pour certains, il y aura en plus ou à la place d'une des années une formation de spécialité. Alors ça peut être dans le monde civil. On a parlé de HEC, il y a l'INSP, l'École Polytechnique, des écoles d'ingénieurs. Et tout cela procède en fait d'un choix qui a été fait d'élargir l'employabilité. Et ce choix engage pour la suite de la carrière. Et c'est pour ça que je vous parlais de moments charnières et de réflexions préalables, parce que suite à cette formation de spécialité, nous allons acquérir des marquants, des compétences nouvelles qui seront exploitées directement par l'institution. Parce que l'institution, vous vous en doutez, doit armer l'ensemble de ses postes et savoir gérer un grand nombre de domaines, de questions très complexes en interne. On parle de RH, on parle de budget, on parle de choses très différentes, on parle de programmes, d'armement, de capacités, etc. Donc voilà, de la même manière, certains d'entre nous partiront à l'étranger, faire une école de guerre, une scolarité à l'étranger en plus ou à la place, à l'heure où je vous parle, on a un camarade qui est dans un pays de l'Ouest africain, chez nos alliés, et qui lui-même suit une scolarité d'école de guerre africaine. Voilà, c'est un choix et ça permet un certain nombre de choses à son profit, au profit de l'institution, au profit de nos alliés. Et de la même manière, enfin, nous avons dans nos murs, au sein de la promotion, de nombreux alliés, donc des officiers de notre âge, qui viennent de pays avec qui la France entretient des très bonnes relations et qui viennent nous apporter beaucoup de choses et tirer énormément d'enseignement de ce qu'ils peuvent vivre avec nous à l'école de guerre.
Alors il y a des officiers étrangers de pays alliés, il y a aussi des civils, me semble-t-il, qui peuvent suivre. J'ai suivi la formation à l'école de guerre il y a 3 ans, c'était d'ailleurs une excellente chose, donc je recommande à ceux qui nous écoutent, ils sont intéressés de postuler. On peut aussi donc suivre en tant que civil, être officier, pardon pas officier, auditeur civil pour l'école de guerre terre.
Là, vous abordez un point essentiel qui a trait à qui sont les personnes qui suivent effectivement cette scolarité à l'école de guerre terre, mais aussi on aborde là la pédagogie et la manière dont sont formés nos officiers. L'objectif pour nous, si vous voulez, c'est vraiment de former de futurs hauts responsables de l'armée de terre et du ministère des armées. Et donc, ils doivent être capables de croiser les regards. Et c'est pour ça qu'il est pour nous extrêmement précieux d'avoir, d'une part, les officiers alliés ou de pays partenaires dont parlait Philippe précédemment, mais aussi ces 26 auditeurs civils que nous accueillons chaque année. Donc ça représente un quart finalement des officiers ou des gens, des personnes pardon, qui suivent la scolarité. 26 auditeurs civils qui rejoignent nos rangs. Et donc ils apportent, si vous voulez, un regard extérieur sur ce qu'on fait. Et ça va nous permettre finalement de croiser les regards, de croiser les perspectives pour permettre d'acquérir finalement la hauteur de vue qui sera nécessaire à ces officiers quand ils seront en poste de responsabilité ensuite pour discerner l'essentiel de l'accessoire pour pouvoir décider. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand on regarde une même chose, finalement, il y a 10 manières de la regarder de manière très différente. Si vous prenez un smartphone, par exemple, certains de nos auditeurs vont peut-être y voir un objet de divertissement. Vous y verrez sans doute, vous, un objet de communication, d'autres un outil de travail, et puis certains y verront une arme, finalement, pour influencer, pour mener des actions de guerre cognitive, etc. Donc, tout ça pour dire que, à partir du même objet, finalement, ce smartphone, on peut avoir 10 regards extrêmement différents sur cet objet-là. Et donc, l'objectif de la formation pendant cette année, c'est vraiment de permettre aux officiers de croiser leurs expériences et d'apporter des regards qui sont complémentaires finalement sur une situation tactique qu'ils vont travailler. Et sur une situation tactique, avoir le regard, si vous voulez, d'un auditeur civil, d'une personne qui est issue de l'industrie de défense, qui est issue d'une autre administration, qui est issue de la société civile, et ben, ça nous amène à réfléchir et ça amène finalement les officiers de l'école de Guerre-Terre à réfléchir. Et les premiers acteurs de la formation, finalement, ce sont les officiers de l'école de guerre. Terre au travers des travaux qu'ils conduisent, mais qu'ils conduisent en groupe. C'est une formation collective, si vous voulez. Il me semble que l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est d'être capable, c'est pour eux d'être capable de travailler en groupe, parce que face aux défis qu'ils auront à relever demain, que ce soit des défis opérationnels au combat ou des défis finalement en interministériel sur des sujets de ressources humaines, de finances, etc. Ils auront besoin de cette capacité à intégrer des points de vue différents et en faire finalement la synthèse pour pouvoir déterminer la bonne direction à prendre, tout en prenant toutes les nuances qu'il y a effectivement pour traiter une problématique.
Alors un civil qui voudrait postuler pour être auditeur civil, donc c'est 35 ans à peu près, c'est le l'âge environ, et comment, enfin il y a peut-être sur le site de l'école de Guerre-Terre, il y a un élément à télécharger, l'adresse où envoyer, comment postuler.
C'est le pôle relations extérieures de l'armée de terre qui est, en effet les sélectionne et on a des profils très très variés, très très différents. Moi j'ai la chance d'être binômé avec une auditrice civile qui travaille à la DGRIS, donc du ministère des armées et qui nous apporte qui va bientôt faire une conférence sur un point de situation sur le Moyen-Orient. Voilà, c'est des ressources précieuses pour nous et qui elle-même vient régulièrement à l'école de Guerre-Terre. Pour comprendre comment travaillent les officiers supérieurs et comment est-ce qu'ils abordent les problèmes. Voilà, c'est.
Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir, si vous voulez, des auditeurs civils qui, globalement, aient une première expérience professionnelle au même titre que les officiers qui sont issus de l'armée de terre et qui soient dans le même créneau d'âge et avec à peu près des responsabilités de niveau équivalent. C'est tout l'intérêt, en fait, c'est de réunir des personnes de niveau et avec une expérience équivalente pour justement échanger et confronter des points de vue.
Alors, c'est une grande chance et en même temps un coût aussi pour l'armée d'avoir comme ça pendant 2 ans des officiers qui se forment, donc qui pendant ce temps-là ne sont pas en régiment ou ne, enfin, dire manquent, enfin, en tout cas sont un peu en réserve pour cette formation. Alors, on voit bien aussi que c'est un effort financier, un effort humain important et en même temps, quand on regarde avec le monde civil, beaucoup aimeraient peut-être avoir comme ça dans le milieu de carrière, 2 ans pour se former, préparer autre chose, avoir aussi des rencontres. Enfin, c'est quand même un investissement important pour l'armée, un investissement utile, mais donc il faut aussi mesurer le coût que ça représente et l'effort.
Alors, c'est un investissement que l'armée de terre consent. Après, il faut également le relativiser, c'est-à-dire que l'encadrement de l'école de Guerre-Terre est extrêmement réduit. Nous sommes 9 officiers pour encadrer les 109 stagiaires, les 109 officiers qui suivent, plus les 26 auditeurs civils. Et après, je ne pense pas que la question n'est pas la question de la durée ou du coût. La bonne question, c'est est-ce que cette formation est nécessaire? Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans le contexte stratégique dans lequel nous évoluons, cette formation est indispensable si la France veut encore disposer d'une armée de terre qui soit capable de remplir ses missions et de défendre les intérêts stratégiques de notre pays et protéger la population. L'objectif à l'école de Guerre-Terre, c'est de former des officiers qui soient experts du combat aéroterrestre au niveau de la manœuvre de la grande unité. La grande unité, c'est la division, c'est le corps d'armée. Ce sont les unités qu'on voit aujourd'hui manœuvrer sur le terrain de la guerre en Ukraine, cette guerre qui a lieu aujourd'hui en Europe. Vous savez, le général de Gaulle écrit dans La France et son armée, tant que l'on se bat par groupement peu important contre un ennemi pourvu d'armes médiocres, une longue expérience des conditions locales suffit à guider le commandement. Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Aujourd'hui, nos officiers, ils doivent être capables d'accéder aux hautes parties de la guerre et donc à cette manœuvre des grandes unités qui se fait en plus dans un contexte aujourd'hui où le champ de la conflictualité s'élargit énormément. On n'est plus uniquement où l'armée de terre peut manœuvrer de son côté. L'armée de terre opère, mais dans un cadre qu'on appelle multimilieu, multichamp, c'est-à-dire en étroite coopération avec la marine nationale, l'armée de l'air, mais aussi les nouveaux champs de la conflictualité, notamment dans le domaine cyber, dans le domaine de l'influence, et avec tous les moyens qui nous sont fournis par l'espace également. Donc voilà, je crois vraiment que la vraie question, c'est la question de la nécessité de cette formation, et je crois qu'aujourd'hui, la réalité et ce qui se passe devant nous donnent raison à l'armée de terre dans cet investissement au profit de ses cadres.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de Conflit pour nous présenter l'école de guerre Terre. J'espère que nos éditeurs auront mieux saisi évidemment les enjeux, l'importance, et puis surtout que l'armée est au service de la nation, qu'elle n'est pas un corps à part, même si elle est un corps, une société cohérente et avec ses particularités, mais qu'elle est vraiment au service de la nation et que ce lien armée-nation est évidemment essentiel et fondamental. Alors voilà pour cette première émission. On en prévoit d'autres également pour continuer à vous faire découvrir l'armée de l'intérieur dans son fonctionnement, dans toutes ses composantes également. Et puis on reçoit évidemment régulièrement à Conflit des militaires, des marins, des armées de terre, armées de l'air, gendarmerie également, pour vous donner le panorama le plus complet possible des composantes de l'armée française. Merci beaucoup pour votre fidélité. Salut à tous.